Vous écoutez, on lit pour vous.
Travail des enfants, estimation mondiale 2020, tendance et chemin à suivre, résumé. Un texte de la rédaction, paru sur le site web de l'Organisation internationale du travail, OIT. Le rapport « Travail des enfants, estimation mondiale 2020, tendance et chemin à suivre » présente le bilan des efforts déployés dans le monde pour mettre fin au travail des enfants. Publié par l'Organisation internationale du travail, OIT, et le Fonds des Nations unies pour l'enfance, UNICEF, co-responsable de la cible 8.7 des objectifs de développement durable à l'occasion de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants, ce rapport décrit l'ampleur et les principales caractéristiques actuelles du travail des enfants, ainsi que son évolution dans le temps. À l'instar des estimations précédentes produites tous les 4 ans par l'OIT depuis 2000, les calculs de 2020 sont basés sur l'extrapolation de données tirées d'enquêtes nationales auprès des ménages. Les nouvelles estimations utilisent des données issues de plus de 100 enquêtes auprès des ménages, représentant les 2/3 de la population mondiale d'enfants âgés de 5 à 17 ans. Le contenu du rapport est alarmant. Pour la première fois depuis que nous avons commencé à produire ces estimations, il y a 20 ans, la lutte mondiale contre le travail des enfants est au point mort. En outre, si l'on ne prend pas de toute urgence des mesures d'atténuation, des millions d'enfants supplémentaires risquent d'être contraints de travailler à cause de la crise de la COVID-19. Ces résultats nous ramènent à la dure réalité quant à l'engagement de la communauté internationale de mettre fin au travail des enfants d'ici à 2025. Si nous ne mobilisons pas les volontés et les ressources nécessaires pour agir maintenant à une échelle sans précédent, il faudra encore bien des années pour éradiquer cette pratique. Estimation mondiale et tendance. Le travail des enfants demeure un problème persistant dans le monde aujourd'hui. Selon les dernières estimations mondiales, 160 millions d'enfants dans le monde, 63 millions de filles et 97 millions de garçons étaient astreints au travail des enfants au début de l'année 2020, soit près d'un enfant sur 10 à l'échelle mondiale. De plus, 79 millions d'enfants, près de la moitié de tous ceux qui étaient astreints au travail des enfants, effectuaient des travaux dangereux, mettant directement en péril leur santé, leur sécurité et leur développement moral. La lutte mondiale contre le travail des enfants est au point mort depuis 2016. Le pourcentage d'enfants astreints au travail des enfants est demeuré inchangé au cours des 4 dernières années, tandis que le nombre absolu d'enfants astreints au travail des enfants a augmenté de plus de 8 millions. De même, le pourcentage d'enfants effectuant des travaux dangereux est resté presque inchangé, mais en chiffre absolu, a augmenté de 6,5 millions. La situation à l'échelle mondiale occulte les progrès réels accomplis pour éliminer le travail des enfants dans les régions d'Asie et Pacifique et d'Amérique latine et Caraïbes. Dans ces 2 régions, le travail des enfants a continué à baisser au cours des 4 dernières années en pourcentage et en chiffre absolu. De tels progrès se sont révélés impossibles à réaliser en Afrique subsaharienne. Depuis 2012, on constate une augmentation en nombre et en pourcentage du travail des enfants dans cette région. il y a aujourd'hui plus d'enfants astreints au travail des enfants en Afrique subsaharienne que dans tout le reste du monde. Sans une avancée décisive dans cette région, les objectifs mondiaux relatifs au travail des enfants ne seront pas atteints. Des progrès constants ont été enregistrés au cours des 4 dernières années en ce qui concerne les enfants âgés de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans. Dans ces deux groupes d'âge, on constate une baisse constante du travail des enfants en pourcentage et en chiffre absolu depuis les dernières estimations. En revanche, pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, on note une augmentation du travail des enfants après que les estimations mondiales de 2016 ont révélé un ralentissement des progrès constatés dans ce groupe d'âge. En 2020, le nombre d'enfants âgés de 5 à 11 ans astreints au travail des enfants avait augmenté de 16,8 millions par rapport à 2016. Si l'on ne prend pas de toute urgence des mesures d'atténuation, la crise de la COVID-19 menace d'éroder encore davantage les progrès accomplis au niveau mondial dans la lutte contre le travail des enfants. Une nouvelle analyse indique que, d'ici à la fin 2022, 8,9 millions d'enfants supplémentaires seront astreints au travail des enfants du fait de l'aggravation de la pauvreté attribuable à la pandémie. Pourtant, la nouvelle augmentation prévue du travail des enfants n'est pas une fatalité. Les conséquences réelles dépendront des réponses politiques. Deux autres scénarios démontrent l'énorme incidence à court terme de la protection sociale sur le travail des enfants. Là où on laisse se fragiliser cette protection sociale, on peut s'attendre à une augmentation du travail des enfants d'ici à la fin 2022. En revanche, une augmentation de la protection sociale pourrait contrebalancer largement les retombées de la COVID-19 sur le travail des enfants, nous permettant de renouer avec les progrès en la matière. Voici d'autres résultats essentiels des estimations mondiales de 2020. La prévalence du travail des enfants est plus élevée chez les garçons que chez les filles, tous âges confondus. Chez les garçons, 11,2% sont astreints au travail des enfants contre 7,8% des filles. En chiffres absolus, on dénombre 34 millions de garçons de plus que de filles astreints au travail des enfants. Lorsque la définition du travail des enfants est élargie pour inclure les tâches ménagères effectuées pendant 21 heures ou plus par semaine, l'écart entre les sexes dans le travail des enfants âgés de 5 à 14 ans est réduit de près de la moitié. Le travail des enfants est beaucoup plus courant dans les zones rurales. En milieu rural, 122,7 millions d'enfants sont astreints au travail des enfants, contre 37,3 millions en milieu urbain. La prévalence du travail des enfants est presque trois fois plus élevée dans les zones rurales, 13,9%, que dans les zones urbaines, 4,7%. L'agriculture est toujours le secteur où persiste l'essentiel du travail des enfants, pour les garçons comme pour les filles. Il représente 70% de l'ensemble des enfants astreints au travail des enfants, soit 112 millions d'enfants au total. Beaucoup sont des enfants plus jeunes, confirmant ainsi que l'agriculture constitue un point d'entrée dans le travail des enfants. Plus des trois quarts des enfants âgés de 5 à 11 ans astreints au travail des enfants sont employés dans le secteur agricole. La plus grande partie du travail des enfants est effectuée au sein de la cellule familiale. 72% des enfants astreints au travail des enfants et 83% des enfants âgés de 5 à 11 ans travaille au sein de la cellule familiale, principalement dans une exploitation agricole familiale ou une micro-entreprise familiale. Le travail des enfants en milieu familial est souvent dangereux, contrairement aux idées reçues selon lesquelles la famille offre un environnement de travail plus sûr. Plus du quart des enfants âgés de 5 à 11 ans et près de la moitié des enfants âgés de 12 à 14 ans astreints au travail des enfants en milieu familial effectuent des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement moral. Le travail des enfants est souvent associé à la déscolarisation. Une grande partie des enfants très jeunes astreints au travail des enfants sont exclus de l'école, bien que la scolarité soit obligatoire pour les enfants de leur groupe d'âge. Plus du quart des enfants âgés de 5 à 11 ans et plus du tiers des enfants âgés de 12 à 14 ans qui sont astreints au travail des enfants sont déscolarisés. Cela contribue à limiter gravement leur perspective d'emploi décent à l'adolescence et à l'âge adulte, ainsi que leur perspective d'avenir en général. Beaucoup d'autres enfants astreints au travail des enfants ont du mal à concilier les impératifs de l'école et ceux du travail, ce qui compromet leurs chances de réussite scolaire et leur droit au loisir. Vous écoutez Travail des enfants, Estimation mondiale 2020, Tendances et chemins à suivre, résumé, un texte de La Rédaction, paru sur le site web de l'Organisation internationale du travail, OIT. Le chemin à suivre. Selon les estimations mondiales 2020, publiées par l'OIT et l'UNICEF, la lutte mondiale contre le travail des enfants est entrée dans une phase critique. Elle est au point mort depuis 4 ans, après avoir déjà considérablement ralenti lors des 4 années précédentes. La crise actuelle de la COVID-19 menace d'éroder encore davantage les acquis antérieurs. Si près de 86 millions d'enfants ont été soustraits au travail des enfants depuis que nous avons commencé à produire ces estimations mondiales en 2000, les dernières tendances indiquent toutefois que nous avons pris beaucoup de retard dans notre engagement collectif de mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d'ici à 2025. À l'occasion de cette année internationale de l'élimination du travail des enfants, nous devons agir de toute urgence pour rattraper ce retard. Il faut adopter des mesures immédiates pour éviter de creuser davantage ce retard pendant la crise actuelle de la COVID-19. De toute évidence, la pandémie a exposé les enfants à un risque accru, principalement en raison d'une forte hausse de la pauvreté, les familles étant plus susceptibles de faire appel au travail des enfants, et des fermetures d'écoles, les familles n'ayant d'autre choix que d'envoyer leurs enfants travailler. Pour réduire ces risques, un renforcement des mesures de soutien aux revenus des familles en situation de vulnérabilité par des allocations familiales et d'autres moyens sera indispensable. Il faudra également organiser des campagnes de rescolarisation et des programmes de rattrapage intensif pour ramener les enfants sur les bancs de l'école et les aider à se remettre à niveau lorsque les conditions le permettront. Durant les phases de crise aiguë et de rétablissement, il conviendra de ne pas perdre de vue les impératifs politiques plus globaux visant à mettre fin au travail des enfants. Il s'impose depuis longtemps. Étendre la protection sociale aux enfants et à leurs familles pour atténuer la pauvreté et l'incertitude économique à l'origine du travail des enfants. Assurer aux enfants une éducation gratuite et de qualité, au moins jusqu'à l'âge minimum d'accès à l'emploi pour leur offrir une solution de remplacement au travail des enfants viable et leur donner l'opportunité d'un avenir meilleur, garantir l'enregistrement de chaque naissance pour que les enfants aient une identité juridique et puissent jouir de leurs droits dès leur naissance, promouvoir un travail décent, convenablement rémunéré pour les jeunes ayant l'âge légal de travailler et les adultes, en accordant une attention particulière aux travailleurs de l'économie informelle, afin de permettre aux familles pauvres de renoncer à recourir au travail des enfants. Promouvoir des moyens de subsistance convenables et la résilience dans les zones rurales, notamment en appuyant la diversification économique, en investissant dans les infrastructures des services essentiels, en étendant la protection sociale et en formulant des politiques de vulgarisation agricole, favorisant la diversification des cultures. Les exploitations et les entreprises familiales qui dépendent du travail non rémunéré le plus souvent de leurs enfants ont besoin de plus de soutien pour améliorer leurs moyens de subsistance et se libérer de cette dépendance. S'assurer que la législation nécessaire est en place pour protéger les enfants, étayée par des mécanismes d'application de la loi et des systèmes de protection de l'enfance, et par des services requis pour les appliquer. Traiter la question des normes de genre et la discrimination qui contribue à accroître le risque de travail des enfants, des filles en particulier, pour le travail domestique et les tâches ménagères non rémunérées. Une attention particulière doit être accordée au risque accru de travail des enfants associé aux crises, aux conflits et aux catastrophes. Les questions relatives au travail des enfants devraient prendre en compte toutes les phases de l'action humanitaire, depuis la préparation aux crises et les plans d'urgence, jusqu'aux interventions humanitaires à l'appui des efforts de reconstruction et de relance. Il est toujours aussi important de lutter contre le risque de travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement nationales et mondiales. On s'intéressera particulièrement aux petites et très petites entreprises informelles opérant au niveau inférieur des chaînes d'approvisionnement où le risque de travail des enfants et d'autres risques liés aux droits de la personne sont souvent plus marqués. Les gouvernements peuvent montrer la voie par des marchés publics dissuadant les fournisseurs de recourir au travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Face à la crise de la COVID-19, il est d'autant plus urgent d'agir dans tous ces domaines et contextes que les gouvernements sont actuellement aux prises avec un espace budgétaire restreint. Il sera primordial de prendre des décisions éclairées en matière de politique et de répartition des ressources. Le renforcement de la base de données par pays sur le travail des enfants peut aider à déterminer les priorités locales et à orienter les décisions en matière de politique et de dépenses. Par ailleurs, le dialogue social entre les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs est indispensable pour l'élaboration de politiques pertinentes et adaptées visant à lutter contre le travail des enfants et d'autres défis où qu'ils se présentent. Les gouvernements devront adopter des stratégies de mobilisation des ressources novatrices pour élargir leur espace budgétaire. La communauté internationale devra combler les insuffisances budgétaires générées par la pandémie. De nombreux pays industrialisés manquent toujours aux engagements pris il y a longtemps en matière d'aide publique au développement, APD, et de financement du développement durable. Il faut que cela change. L'allègement et la restructuration de la dette s'impose pour les pays déjà lourdement endettés, afin que la hausse des paiements du service de la dette n'entraîne pas une diminution des dépenses sociales. Nous devons éviter de reproduire les erreurs du passé lorsqu'un besoin urgent de flux de crédit a entraîné des mesures d'austérité qui ont provoqué des coupes dans les services essentiels et qui ont fait le plus grand tort aux enfants et familles les plus démunies. La crise de la COVID-19 rappelle l'importance de la coopération internationale et des partenariats face aux grands défis mondiaux. Il en va de même pour l'élimination du travail des enfants comme pour d'autres priorités absolues en matière de développement inscrites au programme de développement durable à l'horizon 2030. L'élimination du travail des enfants est un défi impossible à relever en faisant cavalier seul. Les pays doivent travailler ensemble dans l'esprit de l'article 8 de la Convention numéro 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants universellement ratifiée. L'Alliance 8.7 joue un rôle important pour faciliter la coopération entre acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en ce qui concerne le travail des enfants. Ce partenariat mondial, lancé en 2016, rassemble des gouvernements, des organisations multilatérales, des organisations d'employeurs, des organisations de travailleurs, des organisations non gouvernementales, des institutions universitaires et des groupes de réflexion dans le but de trouver les moyens d'atteindre plus rapidement la cible 8.7 des ODD. Les trois stratégies adoptées par l'Alliance sont axées sur la recherche et le partage des connaissances, l'innovation, et l'augmentation et la mobilisation des ressources. Il est urgent de relancer la lutte contre le travail des enfants dans le respect des engagements pris et des buts à atteindre au niveau mondial. Les faits présentés dans ce rapport donnent un aperçu des risques existants et laissent entrevoir les solutions à mettre en place. Des mesures et des investissements ambitieux s'imposent et sont réalisables lorsque le bien-être de l'humanité est en jeu, comme l'a amplement illustré la pandémie de COVID-19. Nous avons promis aux enfants de mettre fin à ce fléau. Il n'y a pas de temps à perdre. C'était Travail des enfants, Estimation mondiale 2020, Tendances et chemins à suivre, résumé, un texte de la rédaction, paru sur le site web de l'Organisation internationale du travail, OIT.
Un emblème du Québec menacé. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 20 mai 2025 dans La Presse. Le Harfang des neiges a récemment été désigné comme « menacé » par un comité d'experts. Un spécialiste consulté par La Presse espère que ce changement de statut poussera les gouvernements à agir pour mieux protéger cette espèce emblématique du Québec. Récemment, des experts du Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, COSEPAC, se sont réunis pour déterminer le statut de conservation de 14 espèces sauvages, dont le Harfang des neiges. S'il est vrai qu'on le trouve encore dans toutes les provinces et tous les territoires du pays, le harfang des neiges est néanmoins en déclin. Pendant la saison de reproduction, ce hibou se nourrit principalement de lemmings, de petits rongeurs qui vivent dans les régions arctiques et qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique. Mais d'autres dangers guettent également le rapace l'hiver. Citation. Non seulement cette espèce niche dans l'une des régions de la planète où le climat change le plus rapidement, mais lorsqu'elle migre vers le sud pour l'hiver, d'autres menaces l'attendent. Collisions, électrocutions, empoisonnement aux rodenticides et maladies comme l'influenza aviaire. fin de citation, indique Louise Blight, coprésidente du sous-comité responsable des oiseaux, par voie de communiqué. Déjà en octobre 2017, l'Union internationale pour la conservation de la nature lui avait attribué le statut d'espèce vulnérable, invitant du même souffle la communauté scientifique à réunir davantage de données probantes pour mieux estimer sa population. Le Canada vient donc de lui emboîter le pas en faisant du harfang des neiges une espèce menacée. Ce statut est attribué à une espèce susceptible de devenir en voie de disparition si rien n'est fait pour contrer les facteurs menaçant de la faire disparaître. Moins de 30 000 individus sur la planète. Gilles Gauthier, professeur au département de biologie et au Centre d'études nordiques de l'Université Laval, salue la décision du COSEPAC. Il fait partie des experts consultés par le comité pour aboutir à ce changement de statut. Lui-même a publié une étude en décembre 2024 montrant que sa population avait été surestimée. Il y aurait aujourd'hui seulement de 14 000 à 28 000 harfangs des neiges à travers le monde, soit 10 à 20 fois moins que les chiffres qui avaient été avancés il y a 30 ans et qui se basaient sur des données lacunaires. De plus, des observations réalisées sur 3 décennies dans 5 sites de nidification différents montre que la population de harfang a décliné de plus de 30 % sur cette période. Pour l'expert, désigner le harfang des neiges comme une espèce menacée, citation, ça devrait être une justification pour les gouvernements pour poser des gestes pour limiter les sources de mortalité. Fin de citation, souligne-t-il. Bien qu'il soit difficile d'agir à court terme contre les bouleversements induits par les changements climatiques, admet-il, les gouvernements pourraient, par exemple, interdire certains pesticides qui nuisent à cette espèce lorsqu'elle migre vers le sud l'hiver. Citation, les harfangs vont se nourrir de rongeurs qui ont été empoisonnés par des rodenticides et vont eux-mêmes s'empoisonner de cette façon. Fin de citation, indique-t-il. Selon ses estimations, le Canada abrite actuellement environ la moitié des harfangs des neiges de la planète. Le harfang des neiges en bref. Le harfang des neiges niche l'été dans les zones arctiques du cercle polaire et migre vers le sud pour passer l'hiver. Ce grand oiseau blanc aux yeux jaunes est très reconnaissable. Le mâle est d'un blanc quasi immaculé, tandis que la femelle et les jeunes sont légèrement tachetés ou barrés de brun. Il possède de petites aigrettes repliées sur la tête, presque invisibles. Ce hibou est l'emblème aviaire du Québec, mais il revêt aussi une importance culturelle pour plusieurs nations autochtones. C'était « Un emblème du Québec menacé », un texte de Chloé Bourquin, paru le 20 mai 2025 dans La Presse.